Il est 7h.
On ne savait pas du tout que ça existait. Eux, ils avaient dit attention, l'alcool, la drogue. Mais ce produit-là qu'ils ont découvert par Internet, eux, c'est gaz hilarant, donc c'est juste pour rire. Hein. Et donc, ils ne savaient pas que c'était mortel. Quoi.
Des parents démunis et des jeunes mal informés face au ravage du gaz hilarant. La substance est aujourd'hui l'une des plus consommées chez les mineurs. Elle peut pourtant provoquer malaise cardiaque et paralysie. Les parlementaires veulent interdire sa vente aux mineurs. Dans ce journal aussi, le Royaume-Uni qui se déconfine et l'Organisation mondiale de la santé qui s'inquiète face à la progression de l'épidémie à travers le monde. C'est la plus grande catastrophe agronomique du 21e siècle. Les mots du ministre de l'Agriculture sur l'épisode de gel la semaine dernière. Cette fois, c'est acté. Les élections régionales seront maintenues au mois de juin prochain. Et puis, dans ce journal, le PSG face au Bayern Munich ce soir. Quart de finale, retour de la Ligue des Champions. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et c'est la fin d'une des plus rudes batailles que le capitalisme français ait connue. Veolia va mettre la main sur son rival Suez. Une bataille qui va laisser des traces.
Le regard international de Vincent Hervouet, suivi de l'éditeur Sport de Virginie Fulpin, et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors, quand on subit une défaite au foot, par exemple, on dit qu'on a pris une tôle. Bah, d'où vient cette expression, se prendre une tôle? Je vous le raconte dans un instant.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Sans doute en avez-vous déjà vu jonchant le sol des rues ou des trottoirs, des petits tubes gris d'à peine 10 cm de long, comme autant de témoins d'un phénomène qui inquiète les autorités, la consommation de protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant.
Bonjour Gladys Laffitte.
Bonjour.
Le mois dernier, les députés ont voté à l'unanimité son interdiction à la vente aux mineurs, car ce sont bien les jeunes qui sont les premiers consommateurs de cette substance.
Ah oui, et c'est même l'une des plus consommé après le cannabis. Ils lui ont même trouvé un surnom, le proto pour protoxyde d'azote. Vous savez, c'est ce qui permet en cuisine de faire de la chantilly normalement. C'est très bon marché. Quelques euros seulement la boîte de 10 ou 20 et surtout, ça s'achète dans n'importe quel commerce alimentaire. Le gaz est ensuite mis dans un ballon gonflable et c'est son aspiration qui provoque des fous rires.
Des fous rires peut-être, Gladys, mais surtout des dangers réels pour les consommateurs de gaz hilarant.
Oui, des chutes, des vertiges, des malaises cardiaques et ça peut aussi causer la mort. Nadine Grosdidier a perdu son fils de 19 ans, Johan, il y a 3 ans. Il a fait un arrêt cardiaque après avoir inhalé du gaz hilarant un soir avec ses copains.
Nous, on est tombés des nues quand les gendarmes nous ont montré les ballons et les cartouches. Non, on ne savait pas du tout que ça existait. Ils avaient dit fais attention, l'alcool, la drogue, etc. Donc, voilà. Mais ce produit-là qu'ils ont découvert par Internet, bon, eux, c'est gaz hilarant, donc c'est juste pour rire. Hein. Et donc, ils ne savaient pas que c'était mortel, quoi.
Et quand il n'est pas mortel, ce gaz peut avoir de lourdes conséquences sur le cerveau. Nicolas Price est le président de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. En 2 ans, les cas graves qu'il a recensés ont presque doublé et 15% d'entre eux concernent des mineurs.
Ce qu'on a pu observer, c'est des comportements de plus en plus addictifs, on va dire, avec des gens qui prennent régulièrement et de manière chronique ces capsules. On a des consommateurs qui en prennent plusieurs centaines par jour. Le gaz interagit en fait avec la myéline qui entoure les nerfs et peut donc entraîner des paralysies, des problèmes de sensibilité et donc entraîner des complications qu'on voit de plus en plus souvent.
Alors qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, Gladys, pour enrayer le phénomène?
Alors une loi a été adoptée en première lecture. Elle interdit la vente du protoxyde d'azote aux mineurs dans les magasins et sur Internet. Plusieurs villes ont déjà pris un arrêté municipal dans ce sens, comme le maire de Montpellier, Michael Delafosse, en juillet dernier.
Ça a permis de responsabiliser les commerçants. Et quand un jeune consomme du protoxyde d'azote sur la voie publique, nous avons mis en place un dispositif de rappel à l'ordre qui se tient en mairie. On a vu se réduire la consommation de protoxyde d'azote sur la commune de Montpellier. En tout cas, on voit beaucoup moins de déchets de cette nature-là.
Et ce qui choque aussi le plus, c'est que certains commerces attirent les clients en affichant des réductions sur leurs vitrines. C'est aussi cette incitation-là que la loi veut punir. Ce sera 15 000 euros d'amende pour les commerçants. Le texte doit maintenant repasser au Sénat d'ici au mois de juin.
Voilà, des amendes, des sanctions, des interdictions et la nécessité aussi donc d'informer les parents et les jeunes face au danger de cette substance d'ocycine. Gladys Laffitte pour Europe 1.
C'est un avertissement signé de l'Organisation mondiale de la santé. L'épidémie progresse de manière exponentielle. Nous sommes à un point critique de la pandémie.
Avec des situations contrastées, une épidémie hors de contrôle et un variant qui inquiète au Brésil, posant la question de l'ouverture des frontières. On va y revenir tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Dans le même temps, des pays qui relâchent la bride, comme le Royaume-Uni, où certains commerces ont rouvert hier, dont les terrasses des pubs et restaurants forcément pris d'assaut. Reportage à Londres de l'envoyé spécial d'Europe 1, Théo Manval.
Le soleil est couché, les terrasses sont bondées, mais les londoniens disciplinés restent sagement attablés.
Ça fait quelques heures qu'on est là.
On a eu 6 bières chacune. Non, 8. 8 bières chacune. Ça fait du bien de voir des gens différents, de ne plus être enfermés.
Sauf qu'immanquablement, plus Grace et Carly empilent les verres, moins elles appliquent les gestes barrières.
Il faut faire attention. Très attention. Bien garder les distances.
Poussez-vous les amis. C'est sûr, ça va mal finir, mais on en a besoin.
Ce qui rassure Rachel à la table à côté, c'est que comme 60% des gens, elle est désormais vaccinée.
J'ai eu ma dose il y a 2 jours, mais j'ai de la chance, c'est parce que je suis policière.
Mais c'est loin d'être le cas de tout le monde, relève son voisin parmi le public qu'on trouve ici.
Je ne crois pas que ça change grand-chose, parce que les gens de mon âge, on n'a pas été vaccinés. On a 30 ans, si mes parents étaient là, ce serait plus sûr pour eux, mais pour nous, je ne vois pas l'impact.
Ce qui fait déjà dire aux scientifiques qu'il y aura un rebond des contaminations. Les chiffres d'hier sont déjà les moins bons du mois d'avril. Londres, Théo Manval, Europe.
Ouais, le Royaume-Uni, donc, où tous les plus de 50 ans et les plus fragiles ont reçu au moins une dose de vaccin.
Avouez qu'à l'écoute, vous avez été un peu jaloux. Des Anglais, évidemment. Des injections ouvertes en France depuis hier aux plus de 55 ans, sans comorbidité. Un élargissement de la campagne de vaccination qui ne se fait pas encore vraiment sentir en termes de prise de rendez-vous pour Europe 1. Pierre Herbulot.
La plateforme Doctolib tourne à plein régime, mais pas grâce à l'ouverture de la vaccination aux plus de 55 ans. Les annonces d'Olivier Véran avant-hier n'ont pas dopé la fréquentation de l'application de prise de rendez-vous créée par Stanislas Nyok-Château. Du moins pas encore.
Alors non, ça va être très progressif. Les plus de 55 ans peuvent aller chez leur médecin généraliste et pharmacien. 1 million de rendez-vous cette semaine, 200 000 à 300 000 ensuite toutes les semaines. Les plus de 60 ans à partir de mercredi dans les centres de vaccination pour se faire vacciner à partir de vendredi. Cette accélération va se poursuivre grâce à l'élargissement et au défi vaccination de l'ensemble des acteurs de la chaîne, public comme privé.
Pas d'emballement non plus dans les pharmacies. Myrène dirige une officine à Boulogne-Billancourt. Elle a déjà depuis plusieurs semaines une liste de personnes de plus de 55 ans candidates au vaccin. Encore faudrait-il qu'elle ait de quoi les piquer.
Oui, ça dépend aussi du nombre de doses qu'on reçoit. Et comme on en reçoit, mais quand même en compte-goutte malgré tout, c'est vrai que non, ça ne change pas. Enfin, voilà, on appelle au fur et à mesure les gens quand on peut et quand on a des doses.
Des doses, mais pas de n'importe quoi. Certains de ses clients ont demandé une place sur liste d'attente uniquement pour du Johnson & Johnson, le nouveau vaccin qu'elle devrait recevoir la semaine prochaine en quantité très limitée.
Pierre Herbulot, face au Covid et aux nouvelles restrictions, l'économie française résiste un peu mieux selon la Banque de France. Perte d'activité 4 à 5 fois moins importante selon une enquête auprès de 8000 chefs d'entreprise.
7h08 sur Europe 1, jusqu'à moins 5 dans la Creuse. Comme prévu, le thermomètre a chuté cette nuit, faisant craindre de nouveaux dégâts sur les cultures dans l'Hexagone.
Après déjà un épisode de gel qui a touché de nombreuses régions et tous les types de cultures, viticole, arboricole ou maraîchère, un épisode sans comparaison possible ces dernières années pour le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
On a eu un événement climatique dramatique, probablement la plus grande catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on a eu un effet qui a été un effet de forte chaleur, donc la plante s'est développée, le bourgeon est devenu fleur, est devenu petit fruit, et dans une nuit, les températures ont chuté drastiquement et c'est venu cramer l'ensemble des dispositifs. Et donc ça, ce sont des pertes économiques, d'abord pour les producteurs de fruits, à partir de juin-juillet, qui étaient des ventes qui n'auront donc pas lieu. Ensuite, pour les producteurs de vin, un peu plus tard, mais également pour la grande culture.
Le ministre de l'Agriculture, invité hier soir de LCP Public Sénat dans les vignobles, hein, par exemple de l'appellation Côte-Rôtie. 80% de pertes du jamais vu, selon les vignerons, depuis 1938.
Et c'est donc la fin du feuilleton. Après consultation des maires, le gouvernement a tranché concernant l'organisation des élections régionales et départementales. Elles ne seront pas reportées. Louis Dragnel.
C'est un peu la fin d'un supplice chinois. Les élections régionales et départementales auront bien lieu les 13 et 20 juin prochains. Jean Castex doit annoncer cette décision tout à l'heure devant les députés avant de se prêter au même exercice demain au Sénat. Après avoir longtemps tergiversé, le gouvernement a donc eu besoin de l'avis des maires pour trancher. Il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron était le premier, il y a quelques semaines, à vouloir reporter le scrutin en septembre ou en octobre, là où son premier ministre Jean Castex plaidait pour un maintien des dates. Reste à savoir maintenant comment se dérouleront la campagne et l'élection. Campagne par visio, distribution des tracts sur les marchés, dans les bureaux de vote, assesseurs vaccinés ou testés, nombre de procurations par votant, autant de nouveaux arbitrages que doit désormais rendre le gouvernement.
Et pour le scrutin, en tout cas, donc rendez-vous les 13 et 20 juin prochains.
C'est une affaire qui pose une nouvelle fois la question du suivi des victimes de violences conjugales. La famille d'une femme tuée par son ex-conjoint porte plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger.
C'était en mai 2019, Nathalie Debailly était retrouvée morte. Son ancien compagnon arrêté reconnaît l'avoir tuée. Cette mère de famille de 47 ans avait pourtant signalé à plusieurs reprises avoir été victime de harcèlement et de menaces de mort. Aujourd'hui donc, Marion Dubreuil, ses proches veulent comprendre pourquoi les policiers ne sont pas intervenus en amont.
Oui, d'autant que Nicolas Debailly a toujours encouragé sa sœur Nathalie à aller voir la police. Quand son ex-conjoint a crevé ses pneus, quand il a dit à leurs amis communs qu'il allait la tuer, quand il lui a envoyé la photo d'une pierre tombale, trois mains courantes et une plainte en à peine 4 mois.
Évidemment, le premier responsable reste l'assassin. Maintenant, ma sœur aurait pu être sauvée. À aucun moment, elle a été prise au sérieux. Et donc oui, on pense qu'il y a d'autres responsables. On veut juste que ma sœur soit pas morte pour rien, qu'il n'y ait pas d'autre Nathalie Debailly.
Le jour du meurtre, un témoin assiste à l'enlèvement de Nathalie et prévient la police. Une patrouille se rend au domicile de l'ex-conjoint. Sans réponse, les agents repartent et ne reviennent que 2 heures plus tard pour enfoncer la porte et constater le décès de Nathalie. Des délais incompréhensibles pour Isabelle Steyer, l'avocate de la famille.
On aurait dû voir dans ce dossier que le danger était imminent, revendiqué et que si on avait tout simplement placé en garde à vue l'agresseur, placé sous bracelet électronique, on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui.
Le ministère de l'Intérieur, destinataire de la plainte, nous assure avoir demandé des éléments à la Direction Générale de la Police Nationale.
Et pour terminer ce journal, c'est un peu la rencontre de trois poètes. Quand le réalisateur Michel Gondry s'empare de la chanson de Serge Gainsbourg, la chanson de Prévert.
Oui, chanson, ces feuilles mortes, si connues que le réalisateur Michel Gondry, qui avait signé notamment L'écume des jours, met en image. Ce soir à 18h, il dévoilera un film d'animation dont il a accepté de dévoiler quelques détails au micro d'Angèle Châtelier.
Et chaque fois, les feuilles mortes.
C'est une chanson qui est magnifique parce qu'il y a deux niveaux. Il y a Prévert, qui est un peu enfantin, et il y a Gainsbourg qui utilise ça pour un sentiment très négatif, très nostalgique.
N'en finissent pas de mourir.
On retrouve beaucoup ces sentiments dans votre film d'animation.
On suit le parcours d'une petite feuille morte qui se promène dans différents décors et à chaque fois qu'elle touche un objet ou un animal, cet objet ou animal vieillit en accéléré. Ah, c'est pas joyeux, hein, mais bon.
Jour après jour.
L'animation, ça fait passer un petit peu le côté dur. Je fais beaucoup de films d'animation pour ma fille qui me donne des titres insensés et je trouve des histoires et je les anime et puis je lui envoie.
Et ce jour-là.
La poésie et l'univers onirique de Michel Gondry avec Angèle Châtelier. Enfin, le rendez-vous ce soir, 21h, le PSG face au Bayern Munich après la victoire 3-2 en quart de finale aller de la Ligue des Champions.
Il y aura moins de poètes.
Match et à suivre sur Europe 1.
Évidemment, sur Europe 1, on en reparle dans l'édito sport avec Virginie Fulpin dans une petite dizaine de minutes. Merci Marion. 7h13.